Quelle politique culturelle pour demain ? Compte tenu des perspectives politiques, de la réforme des collectivités, de la construction européenne, sur quels principes de politique culturelle faut-il s'appuyer ?
Innovation, globalisation, durabilité, Raúl Abeledo, Université de Valencia, Espagne.
Le premier mot dont nous parlons, c'est l'innovation. Nous devons innover dans les politiques culturelles classiques et nous devons transformer les politiques culturelles locales. Nous devons innover dans un scénario caractérisé par la globalisation et la durabilité. Donc, nous sommes en train là de parler de complexité. Et en termes de gouvernance, ça implique que nous avons besoin de faire des consensus. Nous parlons de beaucoup de choses. Nous parlons d'identité, de territoire, d'intégration sociale, de tourisme culturel. Nous parlons des questions sociales, économiques, environnementales avec lesquelles la culture interagit. Donc, si nous traduisons ça au niveau de la politique locale, cela suppose différents départements, différentes politiques. Et en même temps, si nous parlons de globalisation, la municipalité n'est pas une île isolée, déconnectée des autres niveaux comme le niveau régional, national ou européen. Il y a bien une interaction entre les enjeux locaux et globaux. S'il n'y a pas un leadership des forces principales dans le gouvernement, cette politique culturelle ne sera pas facile à coordonner avec le secteur de l'emploi, le secteur du développement économique, du tourisme, etc. Ça donnera quelque chose comme ça. Ok, vous êtes du secteur culturel, vous n'êtes pas un département important. Donc, nous avons besoin d'un leadership de ce type. La deuxième question, ce sera le lien avec la société civile, la participation. Comment faire consensus sur ces questions ? Et comment ouvrir le processus de décision à la participation publique ? C'est quelque chose qui fait peur aux administrations parce que ça veut dire partager le pouvoir. Et en même temps, ça ne signifie pas seulement ouvrir les administrations, il faut aussi mobiliser la société civile. Et parfois, les gens sont très très paresseux. Si c'est quelque chose qui me touche directement, ok, je vais peut-être agir. Mais sinon, ce n'est pas facile de mobiliser les gens. Donc, il y a cette question de la prise de décision et la question du leadership pour l'aspect politique. Mais pour les opérateurs culturels et le milieu culturel, il est aussi très important d'améliorer vraiment la question du management de projet. Le management de projet pour trouver de l'argent, des budgets, pour développer des projets et les rendre viables économiquement à long terme, mais aussi pour coordonner différentes disciplines et différents langages.
Penser en termes de responsabilité collective. Culture et dignité. Jean-Michel Lucas, Université de Rennes 2, Haute-Bretagne.
Le premier mot, c'est négociation. Et le deuxième, c'est universalité. Je commence par négociation. Quelles sont les différentes tables de négociation ? En Europe. Et là, la réponse est extrêmement simple. Elle est donnée par les principes qui ont conduit l'Europe à exister à travers son traité de l'Union. Si on veut une Europe qui soit équilibrée, qui soit une vraie civilisation du bonheur et du progrès, eh bien la règle, c'est la libéralisation des services, la libre concurrence, la non-intervention publique. C'est écrit comme ça. Cette règle-là, elle est universelle, c'est-à-dire qu'elle s'applique à tous les moments, à tous les endroits, dans toutes les circonstances de l'Union, y compris au secteur culturel. Je veux dire par là, nous avons besoin des acteurs culturels dans le cadre de cette table de négociation, parce qu'ils agissent. Ils font des choses, ils font des trucs, ils font des festivals, ils font des films, ils font de la musique. Et ce qu'ils font permet à la concurrence de bien fonctionner et même dynamise la concurrence à cause de la relation culture, créativité, innovation. Donc voilà une perspective qui est extrêmement ouverte aux acteurs culturels. Et pourquoi ? Non pas pour enrichir des méchants capitalistes, ça je ne laisserai pas dire ça, pour permettre à l'Europe d'être une société équilibrée, durable. Et là où je voudrais attirer votre attention, c'est quand on regarde la directive services et qu'elle nous dit, qu'elle nous énonce l'ensemble des services concernés. On ne trouve pas le service culturel, on ne trouve pas de service artistique. Vous pourriez vous dire, en tant qu'acteur culturel, ceci ne me concerne pas, puisque dans la liste des services libéralisés et mis sous concurrence, pour le progrès, il n'y a pas la culture. Mais si vous regardez la liste des services qui ne sont pas soumis à la concurrence, et vous ne trouvez pas non plus les services artistiques et culturels. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les acteurs culturels pensent qu'ils sont un peu les maîtres du monde, qu'ils existent en tant que porteurs de quelque chose qui s'appelle l'art. Mais quand on regarde ce dispositif européen, ils ne sont même pas nommés. Mais évidemment que l'idéal du marché, ça ne fonctionne pas parce que c'est un idéal. Donc il faut inventer aussi autre chose. Il y a des exceptions à l'idéal. Les exceptions, c'est des services d'intérêt général. Nous sommes sauvés. La culture était un simple... Les acteurs culturels étaient des pourvoyeurs de rentabilité. Maintenant, on les voit là, qui peuvent accéder aux services d'intérêt économique général. Et là, l'Europe, l'Union européenne, est très ouverte. Chaque collectivité, chaque autorité publique peut créer son service d'intérêt économique général. C'est tout à fait ouvert. Mais combien de tables de négociation viennent de s'ouvrir? Elles sont multipliées par tout le nombre des autorités locales disponibles en Europe. Moi, je le déplore. Parce qu'un acteur culturel, il peut négocier à Marseille d'une certaine façon, il négociera en Slovénie d'une autre façon, il sera peut-être en négociation à Nantes encore d'une autre façon, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de politique culturelle. C'est mon deuxième mot, universalité ou pas? Eh bien, la concurrence est universelle, l'intérêt général qui permet de financer un projet de musée ou de festival localement n'est plus universel, c'est lié simplement aux circonstances du territoire, au rapport de force particulier du territoire, à son histoire particulière, etc. Alors, pour l'acteur culturel, c'est pas vraiment un problème, puisque de toute façon, il va trouver un financement. Mais globalement, collectivement, si on pense qu'il y a une responsabilité culturelle quelque part, c'est foutu. Et le pire dans cette affaire, c'est qu'il y a un deuxième obstacle. L'autorité locale peut faire un système d'intérêt général s'il ne fait pas d'erreur d'appréciation. Alors, vous ne faites pas d'erreur d'appréciation dans les cas suivants. Je vous donne deux exemples culturels. Premier exemple, dans le cas des musées locaux de Sardaigne. Il a été considéré que le financement des projets de ces musées d'une portée limitée et d'un budget modeste n'affectait pas les échanges entre États membres. Est-ce que vous vous rendez compte? L'acteur culturel de Sardaigne a le droit d'avoir plein d'argent public pour son musée parce que ça n'a strictement aucune importance culturelle puisque les autres ne vont pas venir voir ce qu'ils font. Ça n'intéresse pas. Dans le cas des productions de théâtre basque, il a été considéré que le financement public, donc, de ces productions n'affectait pas les échanges entre États membres. Donc vous voyez, puisque la concurrence n'a pas été affectée, on peut mettre de l'argent dans la création basque. Et alors c'est la suite qui est redoutable. Dans la mesure où il s'agissait de productions à petite échelle, leur audience potentielle était limitée à une région géographique et linguistique spécifique. Le ghetto basque. Est-ce qu'on reste dans l'idée d'une activité culturelle qui se négocie dans le cadre des deux tables de négociation que je viens de décrire, ou est-ce qu'on pense que l'enjeu culturel, c'est autre? Prenons une autre entrée. Et cette entrée, elle est simple. C'est l'article 1 des droits de l'homme. L'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Si on veut être acteur de cette société-là, eh bien, il faut considérer que tous les êtres humains sont... libre et égaux, en droit et en dignité. Libre, c'est le marché, mais en dignité. En dignité, ça veut dire que si on veut préserver la dignité des êtres humains, il faut préserver leur identité culturelle. Or, cette affaire de dignité, c'est l'article 2 du traité de l'Union. Le premier terme, c'est dignité, droit de l'homme et dignité. Si c'est ça l'enjeu, si c'est le vivre ensemble des identités culturelles, l'enjeu culturel est premier, c'est un enjeu qui va se jouer contre le choc des civilisations, qui va se jouer en responsabilité sur l'interaction des cultures. Et donc, dans ces cas-là, la question qui se pose, c'est quelle politique publique pour une créolisation du monde? Le piège, c'est que quand vous laissez les acteurs culturels parler de leur affaire, ils ne parlent pas de leur rapport à l'humanité, ils ne parlent pas de leur rapport à la dignité, ils parlent de leur rapport à leur création et aux gens.
Sortir des cloisonnements et nouer une relation partenariale avec les politiques. Philippe Berthelot, président de l'UFISC, Union fédérale d'intervention des structures culturelles, et directeur de FEDUROC, Paris.
Comment on essaie de sortir de ces cloisonnements multiples et comment on est amené obligatoirement à renouer une autre relation avec le politique? Comment on essaie de se doter d'un socle doctrinal qui permet d'avancer en tant qu'acteur culturel, citoyen, Alors moi, je voudrais dire tout de suite qu'il y a une hétérogénéité, il y a différentes façons de penser et de porter son projet artistique et culturel. Donc je crois qu'il y a aussi cette complexité d'accepter qu'on n'a pas, on n'est pas dans une représentation homogène. On est tous porteurs des mêmes valeurs. C'est totalement illusoire. Et donc on est aussi au sein des acteurs culturels sur une confrontation de points de vue. Globalement, le quotidien, c'est le rapport de force. Donc comment sortir de ça? Alors je suis plutôt sur cette idée, et avec d'autres, de comment on peut avancer vers cette construction d'un intérêt général. Moi, je juste me repositionner au niveau de l'Union Fisc, qui est un accident, hein, donc une plateforme au départ qui s'est construite sur la notion d'intérêt général au travers de la fiscalité. Comment les acteurs non lucratifs, d'initiative privée, qui se reconnaîtraient de l'économie sociale et solidaire, se retrouveraient dans un mouvement qui leur permettrait non seulement de porter leur projet, mais aussi d'avancer plus globalement. Comment ils fonctionnent au niveau national et européen? Parce que maintenant, et ça a été bien dit tout à l'heure, on est obligé d'embrasser les trois niveaux et l'articuler dans un portage qui soit plus politique et bien évidemment plus revendicatif et plus de confrontation au niveau national et européen. Donc là, on avance, on a parti sur un manifeste d'une nouvelle économie des arts et de la culture. Je conclurai sur un des enjeux qui est pour nous très important, qui est la problématique de comment on pose une nouvelle relation avec les politiques. De se dire qu'à un moment donné, la relation, elle peut être partenariale et pas seulement commanditaire, prestataire.